Alors ce soir, donc, nous vous accueillons pour tout ce foin pour une cabane sur un double thème, mais qui est connexe, le thème des habitats légers. Et donc, connexe pourquoi avec la loi LOPSI 2, parce que ces habitats-là sont particulièrement visés, en plus de tas d'autres choses dans cette loi, la loi LOPSI 2. Donc, nous aurons deux intervenants. On aura Pascal Lombard, du comité anti-LOPSI 2 Sud-Aveyron, collectif anti-LOPSI 2 Sud-Aveyron, et donc Laurent Delorme, de l'association Canopée, qui nous parlera plutôt des types d'habitats légers qui existent. Voilà. Juste pour vous rappeler les jeudis en question, mais c'est le dernier jeudi de chaque mois sur un thème de société. La soirée, c'est d'abord une information. Ce soir, donc, c'est eux deux qui vont nous la faire. Ensuite, une petite pause. Peut-être que la pause, on l'abrégera un peu vu qu'on commence déjà tard. Et ensuite, le débat. Et là, par contre, il risque d'être nourri. Et lors de ce débat, d'ailleurs, de toute façon, on vous proposera un petit peu le bilan des travaux qui ont été faits cet après-midi par un groupe de personnes anti-LOPSI et donc qui ont apporté de l'information, ont organisé, se sont organisés et vous proposeront sûrement des actions possibles. Voilà, et ça se clôture toujours par la possibilité, en faisant tourner un chapeau, de mettre votre écho pour participer. Et par aussi, là, j'ai oublié, sur le chapeau, très bien, mais la petite feuille, pour ceux qui veulent recevoir de l'information par Internet, bon, les mails, ça existe, on l'utilise donc pour avoir de l'information sur les jeudis suivants. Tout ça pour dire que déjà le suivant est prévu, c'est le jeudi, bien sûr, le jeudi 31 mars, oui. C'est le jeudi 31 mars et ça sera le thème des sans-papiers avec un intervenant de la CIMAD. C'est la société qui historiquement s'est occupée du problème, mais il y en a bien d'autres, réseaux Écoles sans frontières aussi. Et avec la présence aussi d'un ancien sans-papiers, donc qui a réussi à obtenir ses papiers, donc avec ce témoignage-là. Donc ça sera le jeudi 31 mars, et dans le cadre du fonctionnement classique des jeudis en question, mercredi soir prochain, le 2, on se retrouve à la mairie de Marcillac pour continuer la préparation des jeudis suivants. Donc, à vous, si vous avez envie de vous joindre à nous, à travailler à la création de chacun des numéros des jeudis en question à venir. Et sinon, rendez-vous le jeudi 31 mars. Je me souviens plus si on a fixé le café. Est-ce qu'on a fixé le café du jeudi ? C'est donc à l'Arsenic à Marcillac, vous savez où c'est, sur le tour de ville, en partant vers le bout, vers Odesse. Donc à l'Arsenic, le jeudi 31 mars, sur le thème des sans-papiers. Je leur laisse la parole, ils ont tout loisir de vous donner des informations sur le thème abordé ce soir. Ils vont vous dire ça en trois quarts d'heure à eux deux, sans doute. Pour qu'effectivement, on puisse avoir une place au débat. Bonne soirée à tous. Alors, Laurent.
Bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Ça fait plaisir d'avoir des auditeurs. Donc, moi, je m'appelle Laurent Delors. Je suis ici ce soir en tant que membre de l'association Canopée, qui a été association qui a été qui s'est sentie un petit peu concernée par cet aspect de la loi LOPSI qui va à l'encontre de l'habitat léger, puisque l'association Canopée, c'est une association qui au départ s'est montée autour de l'habitat et qui de plus en plus prend des orientations qui vont vers les économies d'énergie, la sobriété énergétique, la sobriété dans la consommation en général. Et donc, de ce point de vue-là, l'habitat léger, ça nous, au on s'est senti concerné. Voilà. Je vais laisser peut-être Pascal se présenter aussi.
Donc moi je suis Pascal Lombard.
Oui, vous pouvez parler un peu plus fort.
Et non, il n'y a pas de porte.
Donc du coup, moi, c'est Pascal Lombard. Voilà, Pascal Lombard, donc c'est mon identité. Et aussi, j'ai une autre identité, c'est Calou. Voilà, on m'appelle souvent Calou. Voilà, vous pouvez m'appeler comme vous voulez aussi. Quand on m'appelait Paco, ça me va très bien. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc moi, je fais partie du collectif Antilopsy 2, donc du Sud Aveyron. Donc bien entendu, un collectif qui s'est créé depuis peu de temps, depuis le 15 janvier, et qui combat au niveau de la loi Lopsy, le côté liberticide de la loi, et qui combat aussi, donc quand je dis liberticide, l'ensemble de la loi, on est d'accord, et aussi précisément sur des actions précises, l'article 32-A de cette loi qui met en question l'habitation légère et mobile éphémère, précaire, pauvre, sobre. Voilà. Et je fais partie d'un collectif d'habitants en Sud Aveyron, on a racheté un lieu pour y développer une forme alternative de vie en collectif. Je parle bien de collectif, pas de communauté. C'est un choix qui a été assez fort. Et du coup, qui travaille justement sur les prises de décision collectives, sans forcément adopter la notion de suffrage universel. Et aussi la volonté sur ce lieu de développer une activité agricole. Une partie du lieu a été rachetée par Terre de Liens La Foncière. Et l'autre partie, une SCI coopérative non spéculative qui a la prétention de gérer le lieu et d'y développer des formes d'habitat, qu'elles soient sur de la réhabilitation ou de l'habitat léger, mobile, etc. Voilà.
Bon, ben, je vais enchaîner un petit peu sur quelques informations concernant l'habitat et l'habitat léger. Déjà, je crois que ce qu'il faut faire, c'est que souvent on associe habitat léger et précarité. Je crois qu'il faut débrancher les deux termes. Précarité, on peut le balancer, précarité, habitat léger. Parce qu'habitat léger, c'est pas forcément vivre dans la précarité. Ça peut l'être dans le cas où certaines personnes n'ont pas d'autre choix que de vivre dans un endroit vite construit, sans confort et avec une hygiène difficile à maintenir, mais ça peut être aussi carrément un choix de vie, puisqu'on est dans une société où la consommation est reine. Beaucoup de gens entrent en résistance par rapport à cette consommation et choisissent de vivre dans de l'habitat léger. Et donc, habitat léger, ça peut aussi recouvrir tout un tas de formules, de possibilités. Que ce soit, bon, on parle beaucoup des yourtes, des tipis, des dômes, des petites maisons en petites bottes de paille, des choses comme ça. Et on peut atteindre un très bon confort et une totale salubrité dans de l'habitat de ce type. Il suffira pour cela de respecter quelques moyens de mise en œuvre et on peut très bien vivre de cette façon-là. C'est un habitat qui est aussi très intéressant puisque au niveau de l'énergie requise pour construire l'habitat, quand on construit une maison avec du bloc béton qui vient pas forcément d'à côté, qui a consommé beaucoup d'énergie pour être fabriqué, plus tout ce qu'on va installer dans la maison, on se retrouve avec des bâtiments qui, avant d'être simplement habités, ont déjà un passé de consommation énorme, simplement pour avoir été construit. Le choix de construire un petit habitat avec des ressources locales, que ce soit des bottes de paille ou du bois, tous les matériaux qu'on peut trouver localement, bon, c'est déjà autant de cette fameuse énergie grise, qui est donc l'énergie consommée pour la fabrication de l'habitat. c'est déjà réduire considérablement cette énergie. D'autre part, vous savez qu'il existe une réglementation thermique qui, pour le moment, est celle de 2005, qui dit que dans notre région, pour le moment, les bâtiments construits et les bâtiments rénovés doivent atteindre une consommation maximale de 110 kW par mètre carré par an. Ce qui veut dire que bon, il faut déjà s'orienter vers des maisons relativement performantes. On va très bientôt passer à la réglementation thermique 2010-2012, qui là va abaisser le seuil de consommation à 50 kW par mètre carré par an pour tout ce qui concerne, enfin ça c'est de l'énergie primaire, pour tout ce qui concerne l'énergie consommée dans la maison pour le chauffage, la production d'eau chaude. Plus on va se retrouver avec une grande maison, si on ne dépasse toujours pas les 50 kW par mètre carré, celui qui va avoir une maison de 200 mètres carrés, je vous laisse faire le calcul, il va avoir quand même une grosse consommation d'énergie. Celui qui va prendre l'option d'avoir une petite maison de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, dans laquelle on peut vivre, et qui va rester à 50 kW par mètre carré, il va avoir quand même une consommation énormément réduite par rapport à une maison beaucoup plus importante. Derrière cet habitat léger, il y a aussi le refus de cautionner tous les lobbies du bâtiment, que ce soit les fabricants de ciment, que ce soit les fabricants de matériaux divers utilisés à la maison, parce que les gens qui font ces choix-là essayent toujours, la plupart du temps, donc de générer le moins possible d'impact sur l'environnement et donc d'utiliser, comme je disais tout à l'heure, des ressources locales, mais aussi de réutiliser des matériaux, des objets qui ont été abandonnés, qui sont en déchetterie ou qui sont d'occasion, ou qui sont ramassés à droite à gauche. On trouve des vieilles portes qui peuvent être réutilisées. On en trouve chez les brocanteurs, par exemple. Il y a tout un tas de matériaux comme ça qu'on peut réutiliser dans sa maison et qui permettent d'avoir une faible énergie grise. Après, le choix de vivre dans de l'habitat léger, ça permet aussi d'avoir un habitat qui a peu d'impact sur l'environnement lui-même, parce que on va pas creuser des fondations énormes, on va pas bouleverser le terrain, on va pas être obligé de construire des chemins pour que les camions de béton puissent venir vider leur béton dans des fondations. Donc c'est un habitat qui impacte peu l'environnement. Lorsque cet habitat est choisi, si on veut aller plus loin dans le peu d'impact sur l'environnement, il va falloir, on ne va pas créer un système d'assainissement pour une yourte, par exemple, vu qu'on peut la déplacer, on ne va pas faire tout un système. Donc l'idéal, c'est de passer à une consommation d'eau qui soit la plus réduite possible et qui soit la moins polluée possible. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, ne pas acheter les produits du commerce, que ce soit les détergents, parce qu'on peut très facilement être dans une consommation de produits naturels dans ce domaine-là. Aussi bien le savon de Marseille, c'est quelque chose qui est basique, mais qui permet de faire un tas de choses à la maison. Et il y a tout un tas d'autres produits, quand on veut chercher, on trouve facilement des produits de ce type. Et le gros problème, c'est souvent ce qu'on appelle les eaux noires, c'est-à-dire l'assainissement des toilettes. Et si on franchit le pas d'utiliser des toilettes sèches, les toilettes à litière, il n'y a plus aucun problème d'environnement et de pollution dans l'environnement. Ça ne concerne d'ailleurs pas que l'habitat léger, puisque dans l'habitat un peu plus lourd, je ne sais pas comment il faut l'appeler, on peut aussi faire ce choix-là pour limiter son impact sur les rejets et sur l'environnement. Mais c'est un système qui est tout à fait adapté à tout ce qui est cabane, yourte, habitat léger, dans tous les sens du terme. Ça permet en tout cas d'avoir un confort et une vie tout à fait normale dans un habitat qui n'est pas conventionnel. Voilà, ben après je ne sais pas si... je ne veux pas trop développer dans ce sens-là, parce que bon, ça serait plutôt... on fera plutôt un échange questions-réponses tout à l'heure s'il y a besoin. Et puis je vais laisser Pascal... amorcer sa partie. Voilà.
Donc, ouais, bien, pour faire le lien du coup avec ce que tu dis, effectivement, cette question de l'habitat, ça peut être un choix de sobriété. L'habitat léger, c'est aussi la tente Quechua qu'on a vue à la télé, vous savez, quand il y a eu toute cette mobilisation sur les quais de la Seine, je crois. C'est ça aussi, quoi. Donc c'est aussi de la précarité. Enfin, et si vous voulez, pour rebondir sur le fondement de cette loi, ben, l'idée qui est quand même développée derrière cette loi, c'est justement de créer l'amalgame, de généraliser, de stigmatiser, en fait, cette notion d'habitat. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus faciles, derrière, pour brouiller les pistes, quoi, tout simplement. Pour nous laisser à ceux qui vivent, c'est-à-dire ceux qui sont dans une précarité, ceux qui sont dans une sobriété, etc., ben, pour pas leur permettre tout simplement de se faire entendre en tant que personne unique par rapport à ce qu'elle vit. Et cet amalgame-là, c'est vraiment l'esprit de la loi, quoi. C'est, en gros, on est dans une société qui, d'un côté, se précarise de plus en plus, la pauvreté. Dire, il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour voir du bidonville, vous allez à Albi, ça se veut une magnifique ville, je crois que là c'est au patrimoine de l'UNESCO, il n'empêche qu'il y a des bidonvilles juste à côté de la voie rapide. Quoi. Enfin, donc il y a cette population-là, voilà. Et puis il y a celle qui s'enrichit beaucoup, hein, on le voit dans les médias, bien, mais c'est pas une série télé, quoi. Il y a vraiment des gens qui gagnent des milliers et des milliers d'euros, quoi. Enfin, c'est, ça devient banal, quoi, à la télé, quoi. Mais il y a vraiment des gens qui gagnent des milliards et des milliards d'euros. Une personne, quoi. Ou une famille, quoi. Enfin, c'est pas de la télé, quoi. Donc, à un moment donné, il y a une gestion qui doit être faite. C'est-à-dire, comment on gère la population, quoi. C'est que... D'un côté, ça grossit des deux côtés, et la population qui est au milieu, qui n'a pas vraiment faim, qui n'a pas forcément besoin d'avoir faim, mais qui est dans son petit truc, ben celle-là, à un moment donné, c'est elle qui va voter, celle-là, il faut bien la gérer, quoi. Et pour la gérer, ben, on fait ça, on stigmatise. Et du coup, ben, on se dit, ben voilà, putain, voilà, on légitime que, ben, par exemple, la vente à la sauvette, ben, c'est du pénal, quoi. Avant, il y avait une amende, maintenant c'est du pénal, quoi. Enfin, on brouille les pistes comme ça. Donc du coup, on criminalise la pauvreté. Voilà. Soit tu es dans la merde ou tu n'es pas dans la merde. Tu veux faire différemment les services d'échange locaux, les systèmes d'échange locaux, tout ça. Ou tu es dans la merde et ouais, tu vas troquer à un moment donné, puis tu vas revendre de la ferraille à la sauvette au cul du camion ou des légumes ou je ne sais quoi. Voilà, quoi, ça le fait pas. Donc on criminalise la pauvreté et l'esprit de cette loi, elle va là. Et alors, au-delà de ça, elle va aussi, du coup, parce que derrière, sous la logique de la peur et de la sécurité, eh bien, elle va légitimer énormément de choses. Comme par exemple, on va pas citer tous les points, parce qu'il y en a énormément, mais il y en a quand même qui parlent. Mais par exemple, légitimer, en fait, le c'est parce qu'il faut quand même dire les mots tels qu'ils sont écrits, quoi. La réserve civile de la police et service volontaire citoyen. Ben, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, ben, vos enfants, ils peuvent très bien, ben, c'est déjà le cas, mais là, ils vont encore mettre du budget là-dessus, quoi. ben, ils peuvent très bien rentrer en tant que volontaires à la police, quoi, et puis être rémunérés par rapport à des actions ponctuelles, quoi. Et ce point-là, c'est l'éducation à la loi, c'est, enfin, voilà, c'est tout ça, donc bon, ça pose quand même des questions, quoi. Et ça permet aussi aux retraités de la police et de la gendarmerie, mais de pouvoir reprendre du service de temps en temps, quoi. C'est un service volontaire, rémunéré, quoi. Donc le mec qui est un peu en mal d'action, il peut venir kiffer avec les copains, quoi. Voilà, donc l'avantage à Sauvette, on en a parlé.
Il y en a ce soir qui sont à service, donc.
Ouais. Ouais, j'espère. Mais j'espère bien que tu puisses témoigner que ça bouge, parce qu'on ne va pas se tourner les pouces pendant trop longtemps non plus. Voilà, après, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait que le préfet, il peut coordonner la police municipale et la gendarmerie. Lui, il y a une seule personne sur le département, il peut coordonner les deux forces. Là. Il y a le filtrage Internet. Alors, il y a aussi le fait, alors, par exemple, filtrage Internet, ça veut dire qu'il y a une personne qui est donc des renseignements généraux ou des services secrets, machin. Il peut très bien rentrer dans votre logement parce qu'à un moment donné, vous avez été repéré parce que vous faites des réunions. Et, attention, les réunions, ça discute trop. Voilà. Et là, la personne peut poser des vidéos, des mouchards, etc. Et cette personne-là, donc, elle peut faire ça à votre insu, mais elle peut aussi le faire... Mais c'est légitime, quoi. C'est vous la choper avant de la tabasser parce que vous pensez que c'est un cambrioleur. Vous lui posez la question si c'est ou pas une personne des services secrets. Parce que si c'est une personne du service secret et que vous portez atteinte à cette personne-là, vous avez droit à du pénal, quoi. Et ça, c'est pas à la télé, quoi. En plus, ils n'en parlent même pas à la télé. C'est la loi Lopsi, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors après, voilà, moi, je vais pas vous faire un cours magistral là-dessus parce que je n'ai pas les capacités. Moi, ça fait deux mois que je bosse cette loi. Moi, le droit. Et alors, voilà, il y a des sites internet. Hein, il faut aller les voir, quoi. Il y a moyen de choper de l'info, quoi. Voilà, vous pouvez choper antilopsie.net. Je crois que c'est ça. C'est www.antilopsie2.net.
Ouais, apparemment 32 pages réalisées par le syndicat de la magistrature, voilà. Qui explique bien un peu tous les points de la loi Lopsi 2, voilà. Et à toutes les libertés auxquelles elle s'attaque.
Voilà. Donc du coup, allez-y, parce que la notion de loi, hein, la loi, c'est une interprétation, en fait. C'est, tout à l'heure, à la première réunion, j'ai pris cet exemple, je vais le reprendre, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais quand vous prenez une recette de cuisine, j'imagine bien que vous ne suivez pas la lettre, machin, que vous rajoutez un petit truc, quoi. Vous l'appropriez. Mais la loi, c'est pareil. La loi, on peut s'approprier corps et âme. C'est une interprétation, la loi. Donc, il y a de la subjectivité là-dedans. Dans la subjectivité, c'est lié à un contexte et à un système de représentation. Donc, si moi, mon contexte et mon système de représentation, eh bien, c'est la sobriété, c'est l'habitat léger, eh bien, je suis sûr qu'on peut, à un moment donné, arriver à s'expliquer avec des gens et alors, avec du respect... Et de l'envie de leur faire passer des idées. Enfin, voilà. Donc, ça rejoint l'idée d'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, c'est pas parce qu'il y a cette loi qu'il faut se dire « Ah merde, on va pas poser de bourte. Non, putain, allez-y, quoi. » Enfin, je vous invite pas forcément à mettre dans une yourte, faites ce que vous voulez, mais ceux qui ont la motivation de le faire, qui se sentent pas freinés par cette loi, quoi. Parce que c'est... La première action militante, c'est de faire son jardin et de combattre cette loi, quoi. De poser des yourtes, des habitats légers, de faire des réunions et puis de discuter, de faire des systèmes d'échange locaux, de la vente à la sauvette s'il le faut, mais voilà. Voilà, donc pour tout ça, pour rebondir, que cette idée d'engagement, voilà, dans la loi, là, s'il y a des gens aujourd'hui, là, chez vous, qui sont ont un peu la sensibilité d'aller, de scolter un texte de loi et de se former un peu en tant que juriste, parce que c'est de ça que je parle, en fait. La loi, c'est quoi la phrase magique, là ? Voilà, tout le monde la connaît. Et alors, c'est nickel. Mais voilà. Donc, en gros, on peut se dire, ben voilà, si on connaît la loi, on peut agir. Et donc, du coup, c'est l'idée, parce que cette loi, donc, il y a plein de trucs, moi, je ne me sens pas d'agir dessus. La vidéosurveillance, le mec des services secrets qui vient me poser une vidéo chez moi, je ne sais pas trop quoi lui dire, quoi. Mais par contre, le 32 Terra, c'est l'article sur l'habitat léger et les habitats légers précaires. Donc, alors, le texte, voilà. Lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée, en vue d'y établir des habitations, comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l'État, blablabla, on va y revenir, le représentant de l'État, ce qu'il peut faire. Mais voilà, c'est ça. Donc cette notion de salubrité publique, de tranquillité, etc., eh bien, jusqu'à présent, il fallait toute une procédure administrative, juridique, pour pouvoir mettre des gens dehors, hein, et de les reloger. Le droit au logement, c'est quand même ça, hein, le DAL, le relogement, il y a un réseau en France là-dessus. Et voilà, alors la loi ici, là, elle amène un nouvel élément, c'est la question on ne reloge pas. Voilà, c'est-à-dire que, tout à l'heure, je l'ai retrouvé, mais ne bougez surtout pas. Voilà, c'est l'arrêté de péril. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la notion de péril. Il y a le péril immédiat et le péril ordinaire. Et bien cette loi, l'OPSI-là, ces questions de salubrité, de tranquillité publique, elle fait passer ça en péril immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de jugement. Le préfet, il dit, pas. Là, ça tombe, le couperet, dans 48 heures, messieurs, dames, alors... les camps gitans, par exemple à Saint-Rome-de-Cernan, il y a un maire, il a pris un terrain communal, il a dit aux gens du voyage, c'est chez vous, il leur a mis un compteur de l'eau, machin, ça. Ça se passe super bien, mais il a été appelé à comparaître devant le tribunal parce que c'est interdit, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, etc. Quoi. Donc voilà, il y a, je pense, d'autres maires qui ont fait ça, donc les camps des gens du voyage, tout ça, ils peuvent aussi, pareil, être sollicités par cette loi. La personne SDF qui s'est depuis quelques années construit, c'est ce qui s'est passé à Saint-Denis. Il y avait les Roms, ils avaient fait un camp, mais le truc, au bout d'un moment, quand même, voilà, ils arrivaient à avoir un peu plus de confort. Ils étaient plus isolés, ils avaient récupéré des poils, il y avait tout un circuit qui s'était créé, en fait, dans ce camp-là, qui faisait qu'il y avait de la solidarité, donc du coup, ça vivait. Et du coup, les gens, ils étaient un peu... Et bien voilà, les mecs, ils sont arrivés, vous dégagez, donc ils ont tout détruit, et puis ils ont mis un peu plus loin. Donc les mecs, il faut qu'ils repartent à zéro. Ça va être la personne qui a acheté un terrain, qui est allée chez elle, propriétaire, en zone constructible. Allez, on va mettre le paquet, mais qui n'a pas de permis de construire. Parce que le permis de construire aujourd'hui, pour construire une yourte, il faut se lever tôt. Et bien cette personne-là, on peut la virer. La personne qui est agricultrice, qui s'est posée sur une zone agricole et qui est à côté de son atelier X ou Y, s'est construit une yourte qui n'a pas de permis de construire et en plus elle est en zone agricole, dehors. La personne qui est en zone naturelle, un dessin.
Naturel.
Voilà, donc c'est bon nombre de gens, en fait, hein, qui sont concernés par cet article 32 Terra. C'est pas que les Roms, c'est pas que les Yourteux, c'est bon nombre de gens. Donc cet article 32 Terra, en fait, il dit que, voilà, en cas d'insalubrité et de tranquillité publique et de sécurité, en cas de problème lié à ces trois fondements, le préfet peut mettre en demeure des habitants de quitter les lieux sous 48 heures. Le seul recours, la seule marge de manœuvre qui arrive à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est capable, un groupe de personnes qui est capable de mobiliser un recours au tribunal administratif, donc c'est un dossier, avec une certaine méthodologie, machin, tout ça, à remplir, etc. Et il faut déposer ça, en fait, au tribunal administratif, sous 48 heures. Bon, autrement dit, là, aujourd'hui, moi, je connais un mec qui est capable de faire ça. C'est le mec qui est venu, c'est Clément David de Halem, qui ça fait des années qu'il bosse là-dessus et machin. Mais voilà, donc on est quelques-uns en Sud Aveyron et ici aussi là, à s'être dit bon, ben on va devenir Clément David version Aveyron. Voilà, on s'est dit on va bosser le truc et on va faire ça. Donc l'idée, c'est pouvoir monter un recours au tribunal administratif en 48 heures, et voilà. Et à partir de là, le préfet, le président du tribunal administratif, a 72 heures pour statuer. Donc, il peut statuer expulsion. Donc, auquel cas, là, la notion de collectif et d'engagement anti-lopsy, c'est on se retrouve à un max de personnes devant la zone qui est menacée d'expulsion, et puis on bloque tout. Voilà. Ça, on saura faire. On a vu plein de choses à la télé, sur Internet. Moi, je n'ai jamais fait, mais je pense qu'on va y arriver. Donc le président du tribunal administratif, il peut dire ça, mais d'après certains qui commencent un peu à connaître bien tout ce monde-là, les tribunaux, les avocats, etc., ils en ont un peu par-dessus la tête aussi du gouvernement, quoi. Parce que bon, c'est bien de pondre des lois, mais il y a des gens quand même, il faut bien qu'ils les appliquent, et ça fait du boulot, et donc ils sont pas contents. Et en plus de ça, au-delà juste de l'aspect travail, je stigmatise un peu, pardon, c'est surtout qu'ils trouvent ça aussi inhumain, quoi. Enfin, ça reste des hommes, quoi, des hommes de loi, donc j'espère qu'ils n'ont pas tous du Mein Kampf, quoi. J'espère qu'ils ont lu des choses un peu de gauche, enfin, des valeurs un peu sociales, j'en sais rien, quelque chose. Donc il y a des gens aussi qu'on peut toucher, quoi. Donc d'aller à la rencontre de ces personnes-là, c'est fondamental, quoi, aussi. Parce que c'est ces chevilles ouvrières-là, à un moment donné, qui peuvent aussi avoir des actions. Et donc c'est pas obligé que le président du tribunal administratif, au bout de 72 heures, après les 48 heures, après le recours au tribunal administratif, il vire les gens. Et là, s'enclenche, en fait, simplement une procédure judiciaire liée à un jugement. C'est que la personne, effectivement, a de toute façon commis un délit, et qu'on a dépassé l'aspect péril immédiat, et qu'on rentre dans une procédure de jugement. Et là, eh bien, voilà, si on est armé, qu'on connaît la loi, qu'on a des avocats qui sont prêts à se positionner, mais alors les avocats, il faut leur mâcher le boulot. J'espère qu'il n'y a pas d'avocat, je ne vais pas du tout insulter la profession d'avocat, mais si on leur mâche le boulot, on va payer moins de fric, etc. Et le mec, surtout, il aura envie de se donner, parce qu'il aura plein d'éléments déjà pour se battre, quoi. Et ça, c'est des arguments de motivation pour les avocats, parce qu'il faut des avocats du barreau, à Véronée. Moi, je n'en connais pas. Bon, quand même, les faucheurs, ils ont dû en rencontrer quelques-uns, quand même, ou sur le Larzac aussi, enfin, on peut en connaître. Et avec ces personnes-là, on peut se retrouver dans une discussion qui peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des juges, avec des médias qui relayent l'information. Et on peut transmettre l'information et on peut faire jurisprudence, quoi. Et en France, la jurisprudence, c'est pas rien, quoi. Et la jurisprudence, on peut s'appuyer dessus. Et ça, c'est une action qui a priori, moi aujourd'hui, bon, là je parle vraiment à mon nom, c'est la seule marge de manœuvre que je vois dans la LOLOPSI, quoi. Alors, et pour ça, il faut 3 ingrédients. Il faut celui qui met sa yourte, ou qui persévère à dire, voilà, quoi, je fais ce choix de sobriété d'habitat ou quoi. Il faut celui qui va se mouiller, alors ceux, parce qu'il ne faut pas être tout seul, qui vont se mouiller pour justement jouer un peu ce rôle-là au niveau juridique machin. Et puis, il faut l'État qui fout le bordel. Alors, espérons qu'il continue. Il faudra qu'il continue le bordel. Mais... Donc voilà, l'action est possible, quoi. Ça, c'est fondamental. Et se rappeler que cette loi, c'est pour criminaliser la pauvreté, je veux dire, c'est quand même un non-sens, quoi. Mais c'est bon. Puis alors, la pauvreté, c'est pareil. La notion de sous-développement, c'est quand même la création de nous, quoi, des pays occidentaux, quoi. On a inventé le développement, on a inventé le sous-développement. Donc du coup, parce que la mortalité infantile, c'est l'enfant, au bout de 5 ans, il meurt, et qu'effectivement, dans les pays... alors sous-développé, effectivement, il y en a beaucoup d'enfants qui meurent. Ouais. Mais peut-être qu'ils ont un autre rapport à la mort. Enfin, je veux dire, il ne faut pas croire tout ce qu'on veut bien nous mettre dans la tête. Et puis voilà, simplement se dire qu'on peut à un moment donné avoir une autre entrée. Et cette entrée-là, la respecter. Et surtout respecter ceux qui en ont fait ce choix-là. Et les accompagner dans cette démarche-là, parce qu'on fait tous partie d'un même bateau. Habiter, on en a tous besoin. Quoi. Après, outrepassant. On peut outrepasser le choix de l'habitat, mais habiter, on en a tous besoin. Voilà.
Je voudrais faire un petit complémentaire qui ne va pas se couper. J'espère que ça ne me découragera pas. Non seulement la loi est compliquée, qu'elle n'est pas compliquée, mais en plus, elle n'a aucune valeur s'il n'y a pas les décrets d'application. Or, il faut savoir que les décrets d'application, ils sont encore plus compliqués que la loi. Alors, il s'est déjà fatigué à voir la loi. S'il a fait en plus ça, il a encore un ou 2 ans de plus. J'espère que tu réussiras quand
même. Moi, je vais ajouter quelque chose.
C'est très bien, parce que je vais rebondir là-dessus quand même. Oui.
C'est que cette loi, c'est pas la première. On est dans une frénésie législative à connotation sécuritaire qui pose question pour la compréhension et l'accès à la loi. Du citoyen, du simple citoyen. Parce que ça devient compliqué. Hein. Depuis 2002, on doit en être à la 25e loi. Oui, mais bien avant, mais depuis Sarkozy. Moi, je situe ça à Sarkozy, hein, 2002. Mais oui, bien sûr. Mais là, depuis quelque temps, ça tombe. On en a 22, 23 depuis. Et l'OPSI 2, ça a commencé en 2002. L'OPSI 1, et il y en a eu une vingtaine entre les deux. Et il y en a à venir encore. La loi sur la psychiatrie, sur l'obligation de soins, la loi sur la réforme du code pénal de la délinquance juvénile, qui vont arriver là prochainement. Donc voilà, je veux dire, c'est très compliqué.
Et à mon avis, il n'y a qu'une solution, je crois qu'il l'a vaguement évoqué, c'est d'être contre la loi, de ne pas la respecter. Moi, personnellement, je suis coacheur volontaire, c'est-à-dire j'arrache le maïs quand il y a du maïs OGM, et d'autres plateaux OGM, c'est pareil. Il ne faut pas respecter la loi si elle n'est pas bonne. C'est un bon principe que j'applique rigoureusement.
Donc effectivement, voilà, il y a des textes de loi, il y en a bon nombre qui sont sortis. Mais il y en a aussi d'autres qui sont sortis avant, sur les textes, notamment le droit au logement, au niveau européen, au niveau mondial, au niveau français. Et voilà, et peu importe qu'ils en produisent toutes, de toute façon, l'erreur de base qu'ils ont fait avec, de continuer ces lois liberticides avec la LOPCI 2, c'est déjà de, rien que de le penser, d'avoir le pouvoir, que ça soit appliqué ou pas, enfin, rien que ça, c'est pas, c'est bon, quoi. Faut pas, on ne peut pas accepter, quoi. C'est pas possible. Éthiquement parlant, je veux dire, enfin, c'est... Et puis c'est eux qui diraient, qui... enfin voilà, qu'elles soient appliquées ou pas, quoi. Voilà. Puis, l'expulsion existe déjà, de toute façon. Il y a des exemples, Tom et Léa en Ariège, là, vous avez entendu parler. Il y a en Sud-Aveyron, Gus et Céline, pareil, terrain agricole, quand ils sont arrivés, le maire, ben ouais, bienvenue, super, des gens qui viennent regonfler la démographie locale, les maires, super, nickel et tout, impeccable. Et puis, il n'empêche qu'à un moment donné, un flic un peu trop zélé, il a vu le truc, il a regardé, la DDT qui est venue, bam, ils sont passés au tribunal. Entre-temps, on les a poussés au cul, on est arrivé à ce qu'ils soient inscrits comme porteurs de projet en agriculture, et du coup, le juge, il a dit, bon, allez, passons, alors qu'il aurait pu, attaquer encore, hein, parce que c'était pas fait, il n'était pas agriculteur, et puis de toute façon, un agriculteur, c'est pas forcément obligé qu'il construise son habitat à côté de sa production, enfin, il y a plein de règles. Le mec, il n'a pas cherché, il a dit, oh, allez, c'est bon. Ouais, voilà.
J'ai oublié de préciser aussi que c'était un appel à la délation de la part des maires qui étaient eux-mêmes sous amende s'ils ne faisaient pas leur boulot.
Ouais,
c'est abominable.
Non, le maire, on ne lui demande pas de non, ça, c'est une croyance. Ouais. On lui demande pas de non, mais par contre, il est engagé, il a des responsabilités. Mais on lui demande, s'il dit pas, c'est pas un problème. C'est par contre, si quand le tribunal administratif, le préfet a porté la mise en demeure, si là, le maire, il se positionne en disant non, moi je suis d'accord pour que ce jeune reste là, là il est redevable d'une amende de 3 000 et quelques euros.
Mais sinon, il n'a pas obligation de balancer.
De délationner. Ça se dit délationner.
Moi, j'ai entendu une version au sujet du maire que s'il s'agissait d'une personne de la population de la mairie qui dénonçait le maire, il était, lui, obligé de payer une amende, comme quoi il n'avait justement pas soutenu, qu'il n'avait pas délaté la personne, et qu'il l'avait soutenu. Est-ce que ça, c'est la réalité ou non?
Je ne sais pas.
A priori, le problème, c'est qu'on trouve déjà difficilement des maires pour nous soutenir, et que dans le cas où il y a un maire pour soutenir, n'importe qui de la population, ne serait-ce qu'une habitation secondaire, donc quelqu'un qui ne réside pas dans le... dans le village, peut dénoncer le maire, voilà, dénoncer, comme quoi il a pas, il a laissé faire ça et qu'il a fermé les yeux. Donc personne ne sait réellement l'ampleur de la position de la maire.
Non, le problème que tu abordes là, non, ça, je n'avais pas su.
Plusieurs fois, ça a été interprété en m'appelant comme ça.
Ok, donc du coup, voilà, juste pour information, parce qu'après on va passer au débat, mais il y a aujourd'hui un mouvement quand même qui se crée en France, mais qui fait même pas qu'il se crée, quoi, qui continue simplement à grossir, parce que ça fait belle lurette que les anciens se battent sur plein de choses déjà. Donc voilà, il y a tout ça qui est en train de grossir. Il y a des gens ici qui ont participé à Toulouse, à la Prairie des Filtres, donc j'espère qu'à un moment donné, ils pourront apporter un témoignage aussi. En Sud-Aveyron, depuis le 15 janvier, voilà, on a créé ce collectif. Il y a ce collectif qui se crée maintenant en Nord-Aveyron. Voilà, donc le travail, c'est ça, quoi. C'est toute cette idée de se retrouver, de discuter et d'avancer. L'opportunité sur laquelle on peut vraiment miser, c'est l'effet réseau, quoi. Et la convergence des luttes, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des, comme on disait tout à l'heure, le monsieur, il y a des ras-le-bol, il y en a sur plein d'autres thématiques. C'est vrai que si on voit toutes les thématiques, on se dit, wow, par quoi je commence, c'est tendu. Mais si chacun de nous, on en met de l'énergie dans une thématique et qu'on converge les uns vers les autres à un moment donné, on peut imaginer un temps fort sur le Larzac, sur Marciac Vallon peut-être, mais un temps fort cet été avec toutes ces luttes-là. Mais là, local, quoi. Moi, j'aime bien l'idée du local. Je me sens pas d'aller sur des trucs européens, machin, mais alors, le local, mais carrément. C'est simple comme un bonjour, quoi. De se retrouver et puis à un moment donné, si on est nombreux, on peut passer le pas et faire le truc, quoi. Renverser le système. Je déconne.
Je déconne pas,
normalement. Je déconne d'avoir déconné. Voilà, moi j'ai terminé, on peut débattre.
Bon, ils ont été sacrément, sacrément brefs, puisque même pas une demi-heure. Bravo à tous les deux. Oui, oui. Mais donc, ça permet quand même de lancer le débat. Enfin, tout ce qu'ils ont dit, il y a toujours à reprendre et à compléter, je pense. Il y aura aussi à voir par rapport à l'organisation du collectif Nord Aveyron, puisque dans la réunion qui a précédé, de 15h à 18h, à 18h30, il y a eu une réunion ici même. Hein? 19h30, allez. Il y a eu une réunion donc de gens qui ont envie d'agir dans le cadre d'un collectif. Il y en avait un créé dans le sud Aveyron, donc là c'est pour créer celui dans le nord Aveyron, pour être, comme il a dit, toujours au plus près des gens qui ont des problèmes, ou simplement lutter et organiser la lutte sur la zone, on va dire. Et puis donc, si vous voulez, on se prend 10 minutes maximum avant de lancer le débat. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, sinon on lance le débat immédiatement.
Avant de partir, on pourrait peut-être avancer les chaises de devant pour en rajouter, pour que celui derrière puisse s'asseoir.